Il n'y a pas encore de glace sur les fils du réseau d'Hydro-Québec. C'est ce qu'il y avait de plus proche d'un son électrique. On trouvait que ça mettait en contexte. Vous savez, je vous ai parlé depuis... ça fait quelques reprises, déjà, où je vous pose la question à vous, essayer de savoir si vous, vous comprenez comment ça se fait que le Québec n'est pas branché sur la voiture électrique, avec tout ce qu'on dit, hein. On est à la veille de la conférence sur les enjeux climatiques à Copenhague. D'ailleurs, on sait toujours pas si Stephen Harper va y aller. On a vu que Barack Obama, nouveau président des États-Unis, essaye maintenant de pousser pour les fameuses voitures avec plug-in, ce fameux moteur à roues, cette espèce d'hybride de série à moteur roue avec chargeur embarqué. C'est ça, un plug-in en français. Et cette technologie-là, le Québec l'avait. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, on avait 20 ans d'avance sur tout le monde. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, le Québec a l'impression d'être carrément finalement dans le peloton de queue, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus fin que les autres. On a bien Hydro-Québec qui, là-dessus, je dois vous le dire, nous avons tenté d'avoir des gens ce matin d'Hydro-Québec pour essayer de nous expliquer où en étaient tous ces projets de voitures électriques ou de moteurs à roues. Et personne ne veut parler. Je comprends pas comment ça se fait. Il y a bien sûr cet inventeur aussi qui a réinventé le moteur roue en 94, Pierre Couture, qui était en fait le pionnier du genre, qui lui était un inconditionnel des voitures hybrides branchables et qui avait développé cette technologie fabuleuse qui aurait pu, à moyen et long terme, signifier des milliards de dollars dans les coffres de l'État. Donc, imaginez, on aurait été sans doute un des endroits les plus riches au monde grâce à cette technologie-là. Une technologie qui a été complètement étouffée pour des raisons qui sont vraiment nébuleuses. Moi, je vous avoue, je ne comprends pas. Il y en a plein d'autres qui ont sans doute essayé de faire enquête là-dessus. On ne sait pas où sont les dossiers de M. Couture. On ne sait même pas où il est, ce fameux moteur à roues qu'il avait créé. Il y a vraiment une grande nébuleuse autour de tout ça. Imaginez, pour une entreprise qui est pourtant, dont le premier intérêt est de faire de l'électricité, de faire de la lumière, pas pour rien qu'ils ont eu le prix Noirceur la semaine dernière de la part de la Fédération des journalistes du Québec. Prix Noirceur bien mérité, vous le comprendrez, et depuis plus que cette année. Je vais revenir là-dessus avec deux personnes qui s'y connaissent très bien. D'abord, Pierre Langlois, qui a écrit « Rouler sans pétrole », entre autres, publié aux éditions Multimonde. Merci d'être là, Monsieur Langlois.
Bonjour, ça me fait plaisir.
Et bien sûr, vous êtes physicien, vous êtes consultant, conférencier. Vous avez écrit « Rouler sans pétrole » parce que vous, comme Pierre Couture, vous êtes convaincu qu'on peut y arriver, puis vous êtes convaincu qu'on était effectivement 20 ans d'avance avec son invention à cet inventeur d'Hydro-Québec.
Ah, c'est sûr, on va y arriver. Lui, c'était un visionnaire. Hein. Faut dire qu'à l'époque, le baril de pétrole était à 20 $ seulement. Il n'y avait pas d'incitatif majeur et il fallait avoir une vision pour dire dans 10 ans, il va falloir être rendu là. Et c'est dommage que ça l'ait pris le tournant que ça l'a pris présentement. Mais de toute façon, dans l'avenir, c'est bien évident que c'est pas une mode, les autos électriques. C'est réellement une nécessité absolue urgente, comme vous l'avez dit, pour plusieurs raisons. Copenhague en étant une, mais aussi, bien entendu, le pétrole qui s'épuise rapidement et dont la plupart des spécialistes nous disent que d'ici 5 ans, la production mondiale de pétrole va se mettre à décroître alors que la demande monte avec la Chine et l'Inde. Et ça va impliquer nécessairement des prix du pétrole assez élevés, 2, 3, peut-être 4 $ le litre.
Ce qui va faire en sorte que le consommateur, à un moment donné, parce qu'on a beau en ce moment, je pense qu'on continue de subir la pression, puis on l'encaisse, mais à un moment donné, on pourra plus.
C'est bien évident qu'il faut agir rapidement. Ça, c'est bien évident pour éviter d'être pris en otage.
D'ailleurs, je tiens à dire, on parle de Pierre Couture. Je tiens à préciser que Pierre Couture est toujours vivant. Il est chercheur à l'IREC, qui est toujours donc... L'IREC, c'est l'Institut de recherche en électricité du Québec, donc c'est relié à Hydro-Québec. Il travaille aussi sur un projet de déglaçage du réseau hydro-québécois. Et M. Couture ne peut pas nous parler. C'est pas qu'il ne voulait pas, mais c'est bien clair, la directive est directe. Il ne peut pas parler de ce qui s'est passé, de son moteur hybride série à moteur roue avec chargeur embarqué, ce qu'il avait créé. On lui a, d'après ce que je comprends, c'est vraiment là, motus, c'est bouche cousue, comme on dit. Il ne peut pas intervenir sous peine de sanction, d'après ce que j'ai compris, ce qui est très dommage, imaginez, notre société d'État qui menace comme ça des gens. pas possible. J'ai aussi Alain Saint-Yves qui est à notre compagnie ce matin. Vous, Monsieur Saint-Yves, on parle de Pierre Couture, puis c'est lui qui vous a donné envie d'être, vous aussi, finalement, de prendre la suite un peu, parce que vous aussi, vous êtes un pionnier au Québec dans le modèle de véhicule électrique. Vous-même, dans la vie de tous les jours, vous êtes un technologue multidisciplinaire. Et c'est le moteur roue de Pierre Couture qui vous a inspiré, qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous roulez vous-même avec un véhicule que vous avez créé. Expliquez-nous un peu ce que vous avez fait.
Oui, en 1994, c'est le reportage à Découverte sur le moteur roue qui a inspiré ma démarche. Tout le monde se souvient là de cette Intrépide dont les pneus crissaient sur l'asphalte là, de l'avant vers l'arrière. Mais ce qu'on oublie, c'est que Monsieur Couture est l'initiateur du concept hybride branchable. C'est le concept au complet dont, qu'il faut retenir et pas seulement le moteur roue. Pour ma part, en 1997, voyant que l'industrie n'allait pas nous livrer des voitures électriques, j'ai pris la décision, compte tenu de mes compétences personnelles en industrie, en machinerie, de concevoir, de passer à la fabrication de ma propre voiture électrique plutôt que d'attendre l'industrie. Alors, pour ma part, ça fait 11 ans que je circule à tous les jours, au quotidien, donc des milliers de fois là, en véhicule électrique. Et pour les grandes distances, j'ai
installé... Un véhicule hybride quand même, non?
C'est le moteur principal à l'avant, c'est un moteur central électrique. Autrement dit, le moteur de la Cavalier que j'utilise en ce moment. Mm-hmm. Auparavant, j'avais une camionnette S10. Donc, c'est à traction principale électrique. Et puis, on assiste pour les plus grandes distances avec un générateur essence électrique. Ça permet d'obtenir une plus grande autonomie. Autrement dit, quand on a parcouru nos premiers 30, 40, 50, 60 kilomètres en mode électrique, on peut continuer avec à l'aide du générateur.
Et là, vous êtes rendu à la baie James, ça a l'air, avec cette camionnette S10?
Exactement. Ouais. Ce qui a initié, si on veut, ma démarche médiatique, c'était pas du tout l'objectif au début. Disons, dans les journaux locaux dans ma région, c'était écrit « Alain Saint-Yves tourne le dos à l'essence et à la pollution ».
Ouais.
Fait que ça a entraîné une démarche médiatique. Et puis, personnellement, étant donné que techniquement, les choses fonctionnaient bien et ça progressait, je relevais des défis pour passer de l'information, communiquer des résultats, ces choses-là. Et puis, la fameuse question à laquelle j'ai toujours à répondre, c'est quelle distance je peux parcourir avec ma voiture.
Oui.
Alors, en 2003, c'était en même temps un défi technique. Alors, j'ai décidé de me rendre à la baie James Radisson, c'est-à-dire 1500 km aller, 1500 km retour, y compris là-dedans une section de 600 km où il n'y a pas de brancheur. Fait que des grands parcours comme ça, en mode hybride branchable, on, avec ma voiture artisanale. C'est quand même pas une voiture fabriquée par des centaines d'ingénieurs de qualité industrielle. Fait que sur des grandes distances, je consommais autant d'essence que la voiture traditionnelle. Mais il reste que le moteur principal était électrique. Et quand on revient en région, parce qu'il y a un concept que des mots que j'utilise, c'est la consommation globale. Ce qui nous intéresse en fin d'année, là, c'est combien on a consommé d'essence en fin d'année.
Oui, exactement.
Donc, ma voiture, j'affiche, c'est ce que je fais, j'affiche des résultats. J'ai une page là sur un site, moi c'est sans but lucratif, là c'est une démarche des convictions. J'affiche mes consommations d'essence. Ma consommation d'essence actuellement, au cours des dernières années, correspond à 5 fois moindre que l'auto à l'origine qu'elle était. Vous savez, une Cavalier, là, 1997, celle que j'utilise en ce moment, devait consommer 9 à 10 litres au 100. Je fonctionne à 2 litres au 100. Je suis sur autoroute à tous les jours. Je demeure Valleyfield, je travaille à Vaudreuil. Donc, des parcours tout à fait standards. Et puis...
Vous n'avez pas besoin d'essence pour venir à Montréal?
Très peu d'essence. Bon, à cause... Le gros problème des voitures électriques, là, M. Langlois peut témoigner de la même chose, c'est la batterie.
Ouais.
Vous savez, on parle beaucoup de moteur roue, mais M. Couture, le concept, comme je vous disais, c'était l'hybride branchable et ça prend une bonne batterie.
Il me le répétait ce matin, parce qu'il m'a refait l'histoire ce matin, M. Couture, son concept était embryonnaire aussi, c'était un prototype, il demandait quand même qu'on le poursuive, il y avait quand même 18 mois à 2 ans encore d'études supplémentaires, M. Langlois, hein, vous confirmez ça dans votre livre.
Oui.
Et il disait que vers les années 2000, ou à peu près au début des années 2000, il aurait été en mesure de véritablement mettre en marché son moteur hybride, moteur roue hybride, donc il y avait encore du travail à faire, il y aurait peut-être eu moyen de l'améliorer, la pile et...
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est ces années-ci, si on parle de 2009, là, les problèmes des batteries sont réglés. Il reste à faire l'industrialisation et diminuer les coûts de ces batteries-là. Fait que, techniquement, pour rouler en diminuant notre consommation d'essence d'un facteur majeur, là, on n'en a plus de problèmes techniques.
Mais c'est ça, vous êtes la preuve, Monsieur Saint-Yves, qu'on l'a réglé le problème si on voulait.
Oui, il reste à passer à l'industrialisation. Avec Obama, c'est ce qu'on vient de faire. On a eu l'air Bush avec ce que j'appelle la balloune de l'hydrogène. Là, ça a été une façon détournée de diriger les énergies ailleurs que la voiture électrique. L'air Obama, on vient de dire, on coupe sur l'hydrogène, on s'en va vers les hybrides branchables. À ce sujet-là, Monsieur Langlois est meilleur que moi pour témoigner ou argumenter, mais c'est la direction que l'industrie s'en va actuellement.
Mais sauf qu'on a du retard, Monsieur Langlois, pareil, on aurait pu faire ça bien avant. Oui, au Québec, on aurait pu mener le bal.
Oui, on aurait pu être les pionniers, définitivement. Parce qu'il faut bien dire aussi souvent, Hydro-Québec, où disent, on peut pas faire des voitures, ça coûte des milliards, mais il n'y a jamais été question de faire des voitures au Québec, là. C'était de faire des composants, comme l'Ontario fait depuis longtemps.
Ah, ouais.
Alors, si l'Ontario le fait, je vois pas pourquoi on n'aurait pas pu faire, nous, des moteurs, des chargeurs, de l'électronique de puissance, de contrôle, des logiciels, même la batterie, éventuellement. Donc, ça aurait été, on aurait pris ça et on les aurait adaptés sur des voitures conventionnelles, simplement dans un premier temps. Après ça, on aurait conçu des voitures spécialement là, pour tenir compte des avantages du moteur roue, c'est bien sûr.
Vous comprenez pourquoi Hydro-Québec a tourné le dos à cette entreprise technologique?
Ben, il y a des raisons officielles. Les raisons officielles, c'est que il fallait faire attention aux dépenses parce que il y avait 28 millions de dollars qui avaient été investis depuis le début du projet jusqu'à ce que Pierre Couture démissionne en 1995 et il demandait 20 millions de plus approximativement. Ça, c'est des informations publiques qu'on retrouve à la commission parlementaire là, sur des sites internet. Donc, 20 millions.
En 98, la commission de
l'époque. Oui, c'est ça, 98, en juin, je crois. Alors, il demandait 20 millions de plus et 18 mois pour terminer la base de son projet. Et on lui a dit, tu vas faire seulement le moteur roue, oublie le reste. Mais là, à ce moment-là, si tu as juste un moteur roue, tu peux pas le mettre sur un véhicule parce que ça prend le reste pour le mettre sur le véhicule. Je vous donnais un exemple. Imaginez qu'on développe un disque compact au laser pour écouter de la musique. Là, ça va bien, on part, on a toutes les composantes, la recherche va très bien. Tout à coup, on dit, on va faire juste le laser. Vous n'entendrez jamais la musique.
Ouais.
Alors, c'est un des éléments gagnants, ça, du moteur roue, c'était de le mettre à côté versus une autre voiture avec le V8, la voiture originale, et de faire essayer les deux. Mm. Et là, l'idée, Pierre Couture, il savait très bien que GM voudrait pas, que Chrysler voudrait pas, que Ford voudrait pas. Mais il savait que le consommateur en voudrait, par contre, lui.
Exactement.
Une fois que tu l'as essayé, son idée, c'était de convaincre le consommateur que la technologie était merveilleuse et de faire en sorte qu'il en veuille, et là, de prendre peut-être une compagnie moins connue, peut-être même en difficulté financière, qui aurait accepté de commercialiser le groupe de traction couture. Et là, à ce moment-là, une fois que les gens y est dans les routes, les gens en auraient voulu. Là. Parce que ce qu'il faut dire aussi, par rapport aux voitures qu'on voit, là, qui sont en train de sortir un peu partout, le moteur roue, son avantage, c'est réellement moins de consommation d'énergie, plus puissant, plus sécuritaire, et aussi 4 roues motrices. Alors, il y a beaucoup d'avantages.
Exactement. Puis en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et déjà à l'époque où Pierre Couture en parlait, et vous parliez de quand on a justement fait cette démonstration de ce prototype dans les années 90, on voyait bien qu'il y avait là un avantage sur la voiture traditionnelle, celle qu'on avait toujours connue. Il y avait même des performances beaucoup plus poussées, ce qui en faisait un avantage. Tous les consommateurs auraient éventuellement, se seraient mis à ça. On va s'arrêter ici. On poursuit notre discussion tout de suite après la pause. Restez à l'écoute. Tu te poses la question ce matin, pourquoi le Québec n'est pas encore branché sur la voiture électrique? Mes deux invités, Pierre Langlois, qui est un conférencier recherché, dont le site Internet d'ailleurs est plein d'informations qui sont remises à jour régulièrement. C'est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment « Rouler sans pétrole ». Et quand vous le lisez, vous comprenez qu'il y a effectivement plusieurs technologies qui existent déjà, qui éventuellement, Monsieur Langlois, vous nous l'avez bien dit tout à l'heure, on n'y échappera pas. On va tous avoir une petite voiture électrique finalement, et c'est tant mieux. C'est dans combien de temps et qui aura la main mise sur le marché? C'était une question intéressante il y a 20 ans. Ça l'est toujours aujourd'hui. On pourrait toujours décider au Québec de rempiler là-dessus, c'est-à-dire de le poursuivre, de reprendre ce dossier-là qui a été coulé pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on ne reviendra pas ce matin parce qu'on le sait pas personne, mais il y a quand même ça. On pourrait décider de reprendre, de remettre l'épaule à la roue, pour faire un jeu de mots là-dessus, et de dire, OK, au Québec, finalement, on va essayer de voir et de faire un peu comme Alain Saint-Yves, mon autre invité, et de se patenter un véhicule électrique. Je dis patenter, mais c'est presque ça, Monsieur Saint-Yves. Vous nous le disiez tout à l'heure, vous avez vous-même construit votre véhicule électrique avec lequel
c'est
vous
c'est du travail ouais. professionnel, mais j'encourage pas les gens de patenter sa propre voiture.
J'ai plein de gens qui m'écrivent, qui me disent, moi, j'ai essayé de faire homologuer ma voiture électrique. Bon, tout le monde est en train de se faire, pas tout le monde, j'exagère, mais il y a certaines personnes qui s'en font une dans leur garage comme ça. Il y a plein d'inventeurs au Québec, donc pourquoi est-ce qu'on a manqué le bateau? Ça, c'est la grande question. Monsieur Langlois, ouais. Vous qui avez fait, vous passez vos journées à étudier ça et notamment d'en rouler sans pétrole, vous nous présentez toutes ces technologies qui existent. Évidemment, il y a des écueils, puis il y a aussi des problèmes. Vous allez dire, il y a des solutions, mais c'est vrai qu'il y en a qui me disent, par exemple, le problème du moteur roue, c'est que le moteur subit toutes les vibrations de la roue qui frappe chaque trou. Donc, imaginez au Québec, dans notre climat, est-ce qu'on peut penser un jour tous rouler avec des voitures électriques? C'est quasiment pas possible. Vous répondez quoi à ça, vous?
Oui, il y a quelques objections comme ça, entre autres celle de l'eau. Les roues vont être, susceptibles d'avoir de l'eau. Mais de l'eau, moi, j'ai un puits artésien avec un moteur électrique dans le puits depuis 25 ans qui est là. Puis il a toujours été là 24 heures par jour. Puis il n'y a pas de problème avec mon moteur électrique avec l'eau. Il y a des scellants, il y a des seaux d'étanchéité. Il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des vibrations, écoutez, le pneu amortit beaucoup la vibration lorsqu'on arrive dans un trou. Et l'accélération là, de ces trous-là, de ces nids de poules-là, là, que subit la roue est de l'ordre de 100 G, 100 fois l'accélération gravitationnelle. Mais il y a déjà de l'électronique, là, comme dans les disques durs, qui résistent à 300 G facilement. Il y a des boulets intelligents, il y a de l'électronique dans le boulet, qui s'est tiré par un canon, ça résiste à 10 000 G. Donc, je veux dire, 100 G, là, oui, c'est vrai, il faut faire attention, il faut le packager correctement. Puis je ne dis pas qu'il y aura jamais une roue qui va se briser, comme d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un véhicule qui n'est pas à la casse à un moment donné.
On dirait qu'ils les font pour 3 ans, accident, nos voitures. Ouais.
Mais il y a des assurances pour ça, là, ouais. Donc, faut arrêter de jouer sur la peur des gens, puis il faut y aller prudemment, évidemment pas avec des très grandes séries au début. Il faut faire des tests, mais c'est certain que le moteur roue consomme 35% moins d'énergie qu'un moteur électrique central. Ça veut dire 35% moins d'électricité, 35% moins de biocarburant, parce qu'éventuellement, comme on l'a dit, c'est des hybrides. Là. Il y a une génératrice à bord. Pierre Couture avait prévu une génératrice. Lui, son idée, c'était d'avoir une batterie qui puisse faire 65 km avec l'électricité. Puis après 65 km, la génératrice à carburant embarquait et rechargeait la batterie en cours de route. C'est ce qu'on appelle une hybride branchable.
Ouais.
Et donc, avec ça, il n'y a pas de problème pour avoir une autonomie aussi longue qu'on veut. Là. Aller en Floride, si on veut, sans perdre d'autonomie. Faire le plein dans toutes les stations aussi. Ce qui est beaucoup plus avantageux qu'une voiture toute électrique, par exemple, qui est limitée au niveau de l'autonomie à 150 km à peu près, puis qui n'y a pas de borne de recharge rapide partout présentement. Donc, oui, c'est faisable. Il y a des énormes avantages à faire ça. Mais c'est sûr que présentement, les brevets arrivent à échéance au niveau du moteur roue. Et là,
ça
on n'a pas la position.
Ça?
Ben, c'est-à-dire que on n'a pas la position forte qu'on avait en 94-95, parce que là, on était protégé par des brevets et on pouvait aller dans l'industrie sans que personne nous copie. Alors, c'est plus délicat maintenant. C'est pas nécessairement évident.
Ça veut dire qu'on a manqué notre coup?
Ben, disons que on a manqué une très bonne opportunité. Parce que moi, j'ai fait le calcul, là, c'était des bénéfices de l'ordre de 5 milliards de dollars par année qu'on aurait pu penser obtenir éventuellement avec ça, si ça avait été bien fait. Alors, un marché de
5 milliards.
Ben, regardez, il y a 60 millions de nouveaux véhicules par année sur la planète. Mettez 6 à 7 000 $ pour le groupe de traction. Vous arrivez à des chiffres d'affaires de 400 milliards. Prenez 12 % de pénétration du marché. Un huitième des véhicules équipés avec des moteurs roues, et vous arrivez à 50 milliards de chiffre d'affaires, donc 5 milliards de profit, grosso modo.
C'est quasiment le double des bénéfices.
Presque le double d'Hydro-Québec, ouais. Présentement. Mais bon, c'est 2 à 3. C'était 3 milliards l'année dernière, là. Ils en ont fait moins un peu cette année.
Quand vous entendez ça, ça vous donne pas mal au cœur.
Alors, tout ça pour 10 millions qui manquaient pour finir son projet. Qu'on n'a pas voulu lui accorder sous prétexte de bien gérer les deniers publics.
Vous comprenez ce qui s'est passé, vous?
J'imagine qu'il y a eu des pressions. On peut pas. On se pose de sérieuses questions. J'imagine qu'il y a eu des pressions là, pour ralentir ce projet-là.
Qui avait avantage?
Ben, écoutez, regardez qui a avantage. C'est sûr qu'il y a les majors dans l'automobile, il y a les compagnies de pétrole, mais bon, là, je ne fais pas d'accusation parce que j'ai pas de preuves. Mais c'est sûr que qu'on soit difficilement que il y avait de l'enthousiasme à Hydro-Québec lorsqu'on a présenté ce groupe de traction-là. Et 6 mois plus tard, après qu'il a été présenté en Californie et que là, tous les fabricants d'automobiles aient vu ce qu'on faisait, là, 6 mois plus tard, hop, là, c'est plus intéressant, là.
Ça a quand même donné des idées à des gens comme Alain Saint-Yves. Au moins, on n'a pas tout perdu.
Mm-hmm. Et pour ajouter à votre question de la fiabilité, j'ai 11 hivers d'expérience dans le sel de nos routes. Puis je peux vous dire que la fiabilité est supérieure à la voiture à essence. Une voiture à essence, il y a des centaines de pièces dans une voiture à essence. Voiture électrique, il y a beaucoup moins de pièces qui sont susceptibles de faire défaut.
Donc, ce que vous me disiez, c'est que finalement, hein, M. Langlois, on va en venir, vous dites, on va être obligé d'en venir à ça, c'est-à-dire pas forcément une voiture toute électrique, mais une voiture hybride. On va en revenir finalement à ce que Pierre Couture voulait qu'on fasse.
Oui, exactement. Moi, je dirais qu'une batterie qui fait 60 km, grosso modo, là, on va pouvoir faire 80 % de nos kilomètres à l'électricité avec nos voitures hybrides, là. Le 20 % qui reste, à cause des différentes technologies que j'explique dans mon livre, 20 % des kilomètres qu'on va faire avec du carburant ne va pas consommer 20 % du carburant d'aujourd'hui, mais 4 fois moins. Alors, ça va être seulement 5 %, donc 20 fois moins de carburant que ces voitures-là vont consommer dans une année. Le reste, ça va être l'électricité.
Il y a des gens qui se posent des questions aussi parce que, bon, on sait que l'industrie de l'automobile traditionnelle a subi beaucoup de contre-coups. La crise économique a été très sévère pour les travailleurs de l'automobile. Nous, évidemment, il y a surtout l'Ontario qui a subi des pertes, mais ça a influencé un peu tout le monde, surtout aux États-Unis. Il y a des gens qui se disent, ben oui, mais les travailleurs, ça veut dire que c'est des pertes d'emplois en moins, mais est-ce qu'il va y avoir un transfert technologique? Les gens qui travaillaient sur les voitures traditionnelles, cette technologie-là, ce know-how, il va pouvoir être transféré sur ces voitures-là si on se dit qu'éventuellement, on va passer à cette technologie. C'est comme, dans le fond, passer de ce qu'il y avait du VHS au DVD.
C'est le progrès, on passe tout simplement à autre chose.
C'est l'évolution, ça.
C'est l'évolution, c'est ça.
C'est sûr que faut dire aussi que c'est une des raisons pour laquelle les compagnies d'automobiles ont été réticentes si longtemps. C'est que les voitures électriques, comme le disait M. Saint-Yves, ou à motorisation électrique, se brisent très peu. Il y a très peu de pièces de rechange, pas de filtre à air, pas de filtre à huile, ou du moins un peu pour la génératrice, mais on l'utilise 20 % du temps, donc ça dure beaucoup plus longtemps. Donc, il y a beaucoup moins d'entretien sur ces véhicules-là, et une bonne partie du chiffre d'affaires des compagnies d'automobiles, c'est pièces de rechange, l'entretien. Ouais. Donc, on comprend que c'est pas... Puis, il faut qu'ils rééquipent leurs usines, réoutiller leurs usines pour fabriquer des nouveaux composants plus électriques, etc. Donc, on peut comprendre facilement qu'il y a une réticence, là. Mais d'un autre côté, on n'a pas le choix, là.
C'est ce qu'on appelle l'inertie économique. Les grosses compagnies doivent continuer dans la même direction le plus longtemps qu'ils peuvent pour ne pas avoir à réinvestir. Ouais. Changer des choses.
Mais ce qui arrive, là, et c'est toujours ça qui est arrivé dans l'histoire, c'est que quand ceux qui sont en place, qui ont les monopoles, ne veulent pas changer, il y a des nouvelles compagnies qui arrivent, et elles offrent sur le marché des produits que les gens veulent, et prennent le dessus, souvent.
Merci beaucoup à tous les deux, Pierre Langlois et Alain Saint-Yves. Si vous voulez des liens, allez sur le site Véhicules Verts, il y aura tous les liens pour vous procurer les livres de Pierre Langlois, et pour avoir des informations sur Alain Saint-Yves, qui est à son tour, finalement, qui prend la relève de Pierre Couture, qui malheureusement avait un très très beau projet, mais qui a été tué dans l'œuf. On s'arrête ici, je vous retrouve de l'autre côté des nouvelles. Restez à l'écoute.
Ouais, faut dire quand. Montréal.
Corus Nouvelles. jeudi 26 novembre 2009. Ici Annie Guillemette. Voici ce qui retient notre attention dans l'actualité aujourd'hui. La crise provoque un ralentissement de la production à Bombardier Aéronautique. Résultat, 715 personnes perdent leur emploi. Le tueur en série Robert Picton se fera entendre de la Cour suprême du Canada concernant sa culpabilité pour 6 meurtres de prostituées en Colombie-Britannique. Et 5 entrepreneurs en déneigement du Québec pour être accusés au criminel à la suite d'une enquête du Bureau de la concurrence.
Coriche Nouvelle.
Bonne fin d'avant-midi, mesdames et messieurs. On commence avec une mauvaise nouvelle du côté économique puisque Bombardier a annoncé ce matin la mise à pied de 715 travailleurs supplémentaires dans le Grand Montréal. Philippe Bonneville, tout cela en raison de la conjoncture économique qui affecte bien sûr grandement le carnet de commandes de l'entreprise.
Oui, la récession qui a durement touché l'industrie du transport aérien. Chez Bombardier, la principale répercussion, c'est que les commandes pour les appareils de type CRJ, des appareils de type régional, se font donc très, très rares présentement. Et conséquence de tout ça, eh bien, 715 personnes perdront leur emploi à partir de janvier prochain. On parle de mise à pied, Annie, qui vont toucher environ 500 employés syndiqués et un peu plus de 200 cols blancs de l'entreprise. Là-dessus, je laisse immédiatement entendre Marc Duchesne. Il est le porte-parole de Bombardier Aéronautique.
Ce sont des postes qui seront coupés sur les lignes d'assemblage du CRJ à Mirabel, également dans notre usine de Saint-Laurent. Et comme ce sont des postes syndiqués, il se peut que par ancienneté, une personne ait le droit de venir supplanter un employé un peu plus jeune sur la ligne d'assemblage, par exemple, du Challenger à Dorval. Donc, ça va toucher vraiment l'ensemble de nos sites, c'est-à-dire Mirabel, Saint-Laurent et Dorval.
Il faut dire aussi que ces suppressions d'emploi s'ajoute aux quelques 4300 autres suppressions d'emplois annoncées plus tôt cette année. Évidemment, du côté syndical, on se dit très inquiet parce que les suppressions d'emplois se succèdent à un rythme effréné depuis déjà quelques mois. Par ailleurs, à la Bourse de Toronto, Annie, le titre de Bombardier est en baisse de plus de 3% présentement.
Merci beaucoup, Philippe.
Je vous en prie.
Sur la scène judiciaire, il y a la Cour suprême du Canada qui entendra l'appel du tueur en série Robert Picton. Le plus haut tribunal du pays se penchera sur les instructions données par le juge au jury qui a reconnu le fermier de la Colombie-Britannique coupable de 6 meurtres. Robert Picton a été condamné en 2007 à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Il avait subi son procès pour les meurtres de 6 prostituées, mais était accusé de 20 autres meurtres. Le Bureau de la concurrence s'apprête à recommander le dépôt d'accusations criminelles contre une demi-douzaine d'entrepreneurs qui auraient comploté pour gonfler le prix des contrats de déneigement qui sont octroyés par Transport Québec. L'organisme va déposer son rapport d'enquête à la Couronne au cours des prochains jours. Les accusations pourraient être déposées au début de l'année prochaine. L'enquête du Bureau de la concurrence aura duré 3 ans et vise au moins 5 entreprises québécoises. L'Assemblée nationale veut adopter, on le sait, de nouvelles règles pour assurer un meilleur contrôle dans l'attribution des contrats. La ministre des Transports, Julie Boulay, était en entrevue ce matin avec Paul Arcan au 98.5.
Toute compagnie qui sera coupable, reconnue coupable de fraude, de collusion, de malversation au code criminel, on va leur retirer leur licence, leur permis d'entrepreneur pendant une période de 5 ans. Mais cette mesure-là, elle n'existait pas à l'heure actuelle, elle n'existait pas.
Le projet de loi déposé hier par le ministre Claude Béchard prévoyant des modifications à la carte électorale et au financement des partis politiques est une double ambition qualifiée de bipolaire par l'opposition officielle. En ce qui a trait à la carte électorale, l'objectif est de conserver un nombre minimal de sièges à l'Assemblée nationale pour les régions où la population diminue, tout en permettant la création de nouvelles circonscriptions là où le nombre d'électeurs augmente. Le chroniqueur politique Jean Lapierre du 98.5 FM a dit ce matin ce qu'il faut comprendre exactement.
C'est que c'est fini au Québec l'égalité du poids relatif de chaque vote. Pourtant, c'est un principe universel en démocratie. En principe, ton vote vaut le mien, puis vaut celui du Gaspésien. Là, maintenant, pour toujours dans la loi, c'est clair que même si les régions se vident, ils vont toujours garder le même nombre de comtés.
Et en terminant, la journaliste canadienne Amanda Landaut est arrivée aujourd'hui au Kenya au lendemain de sa libération après 15 mois de captivité en Somalie. L'avion Nolisé qui l'a transportée en compagnie d'un autre otage, le photographe australien Nigel Brennan, s'est posé à Nairobi. Par voie de communiqué, le premier ministre du Canada, Stephen Harper, a dit « veiller à ce qu'elle reçoive toute l'aide nécessaire ». Vous écoutez Coriche Nouvelle, le plus important radiodiffuseur d'informations privées au Québec.